Le mardi 17 décembre, le collectif Convergence 72 a organisé une rencontre à Marçon pour informer les citoyens et les citoyennes, les élus, sur les conséquences des coupes budgétaires annoncées par la présidente de la région Pays de la Loire, Christelle Morancet. Nous sommes donc allés à la rencontre de ce collectif à la ferme du Cochon Zébré située à Marçon pour en apprendre plus sur leurs revendications suite à ces différentes coupes budgétaires où une trentaine de personnes étaient présentes. Nous avons donc rencontré Gilles Roubi, collectif des associations citoyennes, Florence Loison, de Zutano Bazar pour le collectif Convergence 72 ainsi que Vincent Osbert de la Confédération Paysanne de la Sarthe. Il nous en parle au micro de Contact FM. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Bonjour.
Merci pour l'accueil de nous avoir invités ici juste dans le sud de Sarthe pour une heure et demie qui fut très intéressante d'échange, de débat. On va déjà rappeler ce que c'est Convergence 72 exactement.
Donc Convergence 72, c'est un rassemblement spontané de réseaux associatifs de la Sarthe suite aux annonces brutales et soudaines de futures coupes budgétaires drastiques sur le budget 2025 de la région Pays de la Loire, où la présidente de région, Christelle Morancet, a annoncé 100 millions d'économies. Et on s'est rendu compte progressivement que notamment la commission 7, qui rassemble tout le réseau associatif, culture, sport, solidarité, sociale, égalité hommes-femmes et grande précarité, donc ça regroupe quand même énormément de structures associatives, allaient être coupées drastiquement, voire supprimées leurs subventions dès 2025.
Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Aujourd'hui, 100 millions, c'est énorme. Le jour où l'interview sera diffusée sera le jeudi 19 décembre, où vous serez sur Nantes.
Exactement. En fait, donc le vote de ce budget 2025 est prévu jeudi 19 et vendredi 20 décembre à l'hôtel de région. Il y a un appel à manifestation massive régionale et au-delà. Toutes celles et ceux qui peuvent nous rejoindre devant l'hôtel de région sont vraiment les bienvenus parce que nous avons besoin de faire entendre à la présidente de région qu'il ne faut pas voter ce budget en l'état à ce jour, puisqu'il n'a pas été suffisamment étudié, réfléchi et concerté avec l'ensemble des acteurs de la région Pays de la Loire, tant les collectivités territoriales, départements, maires, présidents de Comcom, mais aussi l'ensemble des acteurs RIS associatifs concernés par ces coupes qui sont brutales et qui ont été annoncées extrêmement tardivement sur nos exercices à venir.
Vous avez fait plusieurs rendez-vous en Sarthe.
C'est notre sixième ou septième conférence de presse, je ne sais plus où on en est. L'idée, c'était effectivement, donc ce mouvement de convergence, s'est mis en route très spontanément au courant du mois de novembre, dès qu'on a su cette affaire-là. Des assemblées générales hebdomadaires le vendredi soir ont eu lieu au Mans tout le mois de novembre. Mais évidemment, venir au Mans, c'est un sujet. Nous aussi, nous sommes des structures implantées en milieu rural. La question des coupes drastiques concernent tous les territoires et on sait d'ores et déjà que des coupes de cette hauteur-là dans les territoires ruraux vont avoir des conséquences plus massives, plus compliquées pour l'avenir de nos territoires, de la vie de nos territoires et puis de l'accès aux droits fondamentaux de prévention, notamment d'égalité hommes-femmes, mais aussi de la jeunesse et la question des missions locales qui sont très durement impactées. Donc pour nous, c'était hyper important qu'on aille à la rencontre de nos territoires, de notre département, nord, sud, est, ouest. On n'a pas fini. Ça ne va pas se terminer le 20 décembre. On reprendra en janvier, on continuera parce qu'on se rend compte aussi que c'est un déni de démocratie auprès de nos élus les plus locaux qui ne sont pas d'accord avec cette vision des choses, qui sont très en soutien de nos structures implantées en milieu rural notamment et qui, et ces conférences qui ont vraiment eu du succès.
On le voit aujourd'hui, une trentaine, c'est ça?
Oui, une trentaine de personnes dans la cave de Maud Cochonneau, je la renomme, le Cochon Zébré, qui est une ferme viticole paysanne et biologique, donc qui nous accueille et qui prouve par A plus B que nos territoires sont bien dynamiques. Toutes et tous, élus, acteurs associatifs, paysans, interagissent, agissent et ont envie de continuer à faire vivre nos territoires. Donc on est toutes et tous très inquiets, quel que soit de l'endroit d'où l'on parle.
Ça s'est senti aussi avec les questions des personnes qui étaient présentes. Qu'est-ce que vous voulez rajouter, vous, messieurs, par rapport à ce qui a été dit à l'instant?
C'est complexe, c'est un rassemblement et une convergence qui ne rassemble pas uniquement un pôle de la vie associative, puisqu'on a souvent l'habitude de dire que c'est uniquement le monde de la fête, pour certains, c'est ce qu'ils disent. Nous, les paysans, on est directement touchés. Le syndicat, la Confédération Paysanne, c'est les personnes qui nous soutiennent au niveau de la région, les personnes qui nous forment, qu'on est en train de leur dire, le budget, c'est 70% de notre budget de fonctionnement où on lui dit au revoir. Et donc, débrouillez-vous. C'est comment on protège, comment on défend notre modèle agricole et paysan avec des gens qui nous disent, nous, on ne vous soutient plus. Débrouillez-vous. On a besoin aussi de cette convergence-là pour dire qu'on n'est pas chacun isolé. Ça a été vraiment une décision unilatérale de dire, en gros, à tout le monde, là, débrouillez-vous. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'on a pris l'information, sans concertation, loin de tout ce qu'on appelle la démocratie. On se demande si elle existe encore un peu en région, des fois.
Vous l'avez beaucoup dit, c'est énorme, comme si vous vous étiez lâché, en fait, dans la nature.
Pour nous, c'est vraiment comme ça qu'on l'a vécu, puisqu'en fait, on a pas que le syndicat de la Confédération paysanne qui est touché, on a pas mal d'organismes avec donc de l'installation, avec la SIAP, la coopérative d'installation d'agriculteurs paysans, le CIVAM, par exemple, qui aide à la transition des paysans pour aller vers d'autres modèles, puisqu'ils arrivent au bout d'un modèle, donc ils essayent de changer vers des modèles plus résilients. Là, par exemple, concrètement, là-dessus, on leur dit bah, il y avait une ligne sur le budget qui est l'accompagnement vers les énergies renouvelables. On leur dit, c'est zéro. Vous êtes passé d'une certaine somme à zéro. Débrouillez-vous. Clairement, en fait, le CIVAM qui accompagne là-dessus, bah, ils disent bah, si on a zéro, en fait, on n'accompagne plus. Donc, là où aujourd'hui, on dit il faut aller vers les énergies renouvelables et tout ça, comment la région peut-elle décider de dire on passe à zéro. Faut le faire, mais sans rien. On a d'autres structures comme ça qui existent et c'est là où ça fait mal. C'est vraiment l'agriculture biologique, c'est pareil, qui va être touchée avec le GAB, le groupement des agriculteurs bio. Alors, ils sont pas forcément autant impactés que nous parce qu'ils font beaucoup de formations et donc c'est là-dessus qu'ils ont une rentrée d'argent. Tous les supports qui sont vraiment là en soutien des paysans et des agriculteurs, on leur dit bah, il va falloir que vous réussissiez à financer. Les agriculteurs ont besoin d'être accompagnés pour faire notre transition agricole. On nous demande, le monde de la société, la France nous demande de faire une transition, on ne nous donne pas d'argent. On nous dit débrouillez-vous. On en avait peut-être un peu, on nous dit débrouillez-vous. Et ça, c'est très inquiétant.
Sur le communiqué que nous avons envoyé pour ce rendez-vous d'aujourd'hui, il y a eu 3 revendications. Quelles sont-elles ?
Les revendications, elles sont déjà de demander un report du vote, de demander aussi un audit des finances de la région. C'est essentiel parce que, en fait, la présidente, elle est face à un déni. Elle applique une politique qui est vraiment politicienne. Elle incarne une image d'une société qui est de « il n'y aura rien qui aura lieu dans cette région en dehors de ce que moi je décide en tant que présidente et par exemple que soutien à des structures économiques, des entreprises, parce qu'elle a cette idée derrière que finalement le capitaliste, l'entreprise, c'est ce qui va sauver la société. Le déni, il est d'abord pour les territoires et il est d'abord économique pour les territoires. Par exemple, tout le monde sait, c'est des chiffres, c'est étudié, etc., que pour 1 euro investi dans la culture, c'est 6 euros de retombée économique dans les territoires. On a des personnes d'un festival l'autre jour qui nous disaient, eux, ils ont 48 000 euros de budget, tout est bénévole, c'est 3 jours de festival dans leur commune. Sur les 48 000 euros, 45 000 euros, c'est des retombées pour des loueurs, pour les métiers de la bouche, pour des hôteliers, c'est des prestations. Ils perdent 12 500 euros, perdant 12 500 euros, c'est 12 500 euros qu'ils n'iront pas pour les personnes qui vivent, qui travaillent dans le territoire pour l'économie locale. Ce déni pour les territoires, c'est qu'on prend aujourd'hui une décision, et cette décision, eh bien, on ne la confronte à aucune discussion, aucun espace, aucune analyse préalable, ce qui fait qu'on sait que les élus, y compris de la majorité, qui soutiennent la majorité régionale, eh bien, eux-mêmes ont été sidérés, choqués par ces annonces-là. Et ça, c'est le premier des dénis, c'est le déni démocratique. Déni démocratique, c'est de prendre une décision tout seul dans son espace proche, en disant « je prends des décisions et je l'impose à tous les acteurs économiques, culturels, associatifs et politiques, les maires, les conseillers départementaux. » Des élus, y compris de qui est en soutien à cette majorité de Mme Morançais, prennent la parole dans la presse, s'indignent, demandent que le budget ne soit pas voté. Il est aussi à l'égard de tout ce qu'est ce qu'on appelle les espaces de négociation et de discussion. Et Mme Morançais appuie son argumentation sur ce deuxième déni, qui est le déni juridique. Elle s'appuie sur la loi. Notre de 2015 est précise. Elle répartit les compétences des collectivités locales en 3 paquets, en quelque sorte. Ce qu'on appelle les compétences obligatoires, par exemple la formation, par exemple les lycées pour la région. Ce qu'on appelle les compétences partagées. Florence évoque, quand elle parle de cette commission 7, qui touche à des questions culturelles, d'égalité, de solidarité, et puis les compétences optionnelles. Et Mme Morançais, dans son argumentaire, assimile par une supercherie intellectuelle, elle assimile les compétences partagées à des compétences optionnelles. Or, les compétences partagées, la loi NOTRe, elle est claire, elle dit que ce sont des compétences partagées entre l'État et les collectivités territoriales, donc la région. Elle ne dit pas qu'une collectivité peut s'exonérer de mettre en œuvre une compétence partagée. On doit juste l'organiser et avoir une notion de chef de file qui est ce qui est la met en œuvre, et puis être en dialogue avec l'État sur cette compétence. Et justement, c'est fait pour le champ de la culture, par exemple, c'est spécialement parce que justement, c'est un champ où on ne peut pas travailler sur la question culturelle en dehors de ce partage de compétences entre une municipalité, conseillers, communauté de communes, un département, une région et l'État à travers la DRAC. Prenons cette décision et prend en porte-à-faux les directions régionales d'action culturelle, services de l'État, en disant au DRAC, eh ben non, nous ne partagerons, nous n'investirons pas dans ces champs-là, donc nous ne mettrons pas en œuvre les politiques d'État que pourtant nous avons votées, nous, en étant parlementaires. Ces trois dénis économiques pour les territoires démocratiques et juridiques font qu'on est en face d'un mur, d'une personne qui dit, je prends cette décision-là et je l'impose, quels que soient les points de vue de quelques personnes que ce soit sur un territoire.
Les gens qui veulent avoir des nouvelles, qui veulent vous contacter et vous rejoindre aussi, comment ça se passe? Comment on peut vous contacter?
Eh bien, il y a une adresse mail qui est la suivante, contact@convergence-72.fr. Le site internet qui va avec, convergence72.fr, voilà, qu'on a créé un peu rapidement, on va dire ça comme ça. Pouvoir s'inscrire à une framaliste, en fait, qui va permettre d'avoir un fil d'informations envoyé régulièrement. Sur le site, on essaie de le mettre à jour très très régulièrement sur les communiqués de presse, sur les courriers aussi qu'on reçoit de soutien des uns et des autres, parce que c'est très très majeur, très très large, et puis très massif. Et puis sur les prochains rendez-vous qui seront donnés à partir de janvier, puisque là, les fêtes vont faire que
va y avoir. Vous avez dit alors qu'il y aura une pause.
On va faire une trêve pour mieux reprendre en janvier et continuer notamment ces fameuses caravanes, parce qu'on se rend compte que c'est aussi à l'image de ce que nous défendons, c'est-à-dire d'être au contact en direct avec les habitantes, quelle que soit leur casquette, retraités, associatifs, élus. Je veux dire, aujourd'hui, la représentativité était très claire. Voilà, et puis de continuer à informer et à essayer de récolter des témoignages, parce qu'on ne sait pas encore quels seront toutes les impacts majeurs, en fait, qui vont arriver, notamment le milieu du sport, pour l'instant, qui ne nous a pas encore rejoint très spécifiquement. Donc, l'objectif, c'est d'aller les retrouver, les rencontrer et les associer, en fait, à nos rencontres, etc., etc., j'ai envie de dire. Moi, je voulais juste rajouter un petit point, voilà, plus spécifique, ma compagnie est une compagnie qui est soutenue depuis 20 ans par une politique culturelle partagée. Je suis mancelle d'origine, je suis sartoise, je suis implantée sur mon territoire et le Sud-Sarthe m'accueille depuis 2016 et notamment mon siège social à Montval-sur-Loire. Cette décision unilatérale de la présidente de la région humilie les élus, humilie les conseillers locaux, départementaux qui font confiance à la compagnie avec laquelle ils travaillent depuis des années grâce à des bilans, grâce à des diagnostics, grâce à une réflexion collective, commune de qu'est-ce qu'on fait ensemble. Ça aussi qui est violent, mais c'est aussi ça qui est violent, c'est-à-dire qu'elle humilie ma structure Zoutano Bazar qui agit pour le territoire, mais elle humilie aussi les élus derrière qui lui font confiance. Et ça, c'est aussi le message qu'on veut passer, c'est de dire faisons ensemble, et on est très content que ce midi, des élus de Marçon, de Montval-sur-Loire se sont déplacés pour prendre connaissance des choses et aussi porter leur soutien et leur réflexion en fait avec nous pour dire c'est pas possible que les choses se passent de cette manière.
Et faire remonter aussi à la surface.
Il faut continuer en fait. Nous sommes des actrices de nos territoires qui travaillons en dialogue avec toutes ces échelles de collectivités. Nier ça, c'est nier notre existence pure et simple et la réalité de nos territoires.
Rapidement, si vous aviez Christelle Morancet devant vous à l'instant, qu'est-ce que vous diriez en quelques mots?
Pour moi, très très simple, je dirais, Madame Morancet, revenez à la raison, parce que vous n'êtes pas raisonnable. Et dans la raison, quelque part, c'est de l'intelligence. Pour nos territoires, on a besoin d'intelligence et d'intelligence collective. On travaille, on est acteurs ensemble. C'est pas pour... bien sûr, Florence évoque sa compagnie, mais sa compagnie, elle travaille avec et auprès de personnes. On enchante les territoires. Et les personnes qui viennent s'installer en Sarthe ou en Pays de la Loire, en commune rurale ou en milieu urbain, une des premières choses qu'elles regardent, c'est qu'est-ce que mes enfants vont pouvoir avoir comme activité? Quelle activité je vais pouvoir participer? On va pouvoir aller... Si aujourd'hui, la seule chose qu'on nous propose, c'est du divertissement, et on va aller à un grand spectacle dans une grande salle, il en faut pour tout le monde, il y a des personnes... Moi-même, j'y participe. À part la Starac, qu'est-ce que je peux proposer à mes enfants comme discipline musicale, etc. Le rapport à la pratique et le rapport à la rencontre, c'est ce qui est essentiel. Madame Morancet, soyez raisonnable.
Puis j'ajouterais, puisque nos amis de la Confédération Paysanne sont présents, moi je suis une compagnie qui se sent aussi responsable, co-responsable sur mon territoire. Donc quand j'organise, j'invite des artistes, j'organise un événement, un festival, un temps fort, je regarde autour de moi qui sont les producteurs locaux, j'agis sur l'économie circulaire directement aux producteurs. Je choisis évidemment des producteurs qui sont les plus engagés sur la question écologique. Donc c'est comme si tout ceci n'existait pas, ou demain ça existera, mais sans l'enjeu de la région. Donc je veux dire, c'est d'une violence sans nom. Moi je pense qu'elle se trompe de projet politique, et c'est une forme de mensonge en fait sur l'ensemble de nos territoires. Moi, depuis que je suis implantée en milieu rural, j'ai toujours entendu un discours régional sur priorité au milieu rural. Bon, qu'en est-il aujourd'hui après quelques années de mandat en fait? Puis surtout, surtout quel est le message pour les années à venir. Et il faut passer, sortir de l'inquiétude pour passer à l'agir ensemble et inventer et réinventer ensemble des manières de faire et des manières de résister, parce que c'est pas possible d'accepter ce type de projet, quoi.
Madame Morancet, nous l'avons croisée il y a quelques semaines à Jouet-l'Abbé. Elle était venue présenter un petit peu son programme et donc elle nous avait dit en premier que sa priorité c'était l'emploi. Donc là on voit qu'elle a de l'argent et le premier truc qu'elle fait c'est qu'elle supprime des emplois directement dans les associations, dont entre autres des emplois d'accompagnement à la réinsertion vers l'emploi. Entre sa priorité et les décisions qu'elle prend, c'est assez étonnant. Le deuxième sujet qu'elle avait évoqué en priorité, c'était les jeunes. Que là directement il y a des structures qui accompagnent les jeunes au retour à l'emploi ou qui accompagnent tout court les jeunes. Je connais pas exactement toutes les structures, mais on supprime les subventions pour l'accompagnement des jeunes. Et le troisième point qu'elle avait misé en priorité, c'était la transition écologique. Donc sur la transition écologique, nous les agriculteurs, on est directement dedans. Les paysans, on est directement dedans. C'est aussi tous les supports, toutes les structures qui existent, qui accompagnent les agriculteurs et les paysans à changer leurs pratiques. Là, on dit à ces structures-là, eh ben, vous allez faire ce que vous faites, mais avec moins. Alors qu'en fait, c'est écrit partout dans tous les rapports, dans toutes les études, il va falloir financer la transition écologique. Et donc, il va falloir l'argent public pour aider ces structures-là, pour accompagner les agriculteurs. Et concrètement, quand elle a l'argent, quand elle a les décisions, elle fait le contraire de ce qu'elle a dit qu'elle prendrait en priorité.